Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, respectivement président de l'UDPS et de l'UNC, ont retiré leur signature de l'accord désignant Martin Fayoulou dimanche comme candidat commun de l'opposition, ceci 24 heures après cet accord. Ils disent respecter chacun la volonté de leur base par rapport au choix opéré à Genève sur le président LSID. De son côté, Martin Fayoulou s'est dit consterné par ce changement de position. Quelle analyse faire de cette situation? C'est l'objet du débat de ce soir et nous en parlons avec professeur Moïla Tshiembe. Il est directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Bonsoir professeur Moïla Tshiembe. Voilà, il va nous rejoindre, il n'est pas encore là apparemment. Professeur Alphonse Maindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne à Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Bonsoir professeur Alphonse Maindo.
Oui, bonsoir Arvin Maté.
Et ici au studio, nous avons Christian Moleka, il est analyste, il est aussi coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Bonsoir Monsieur Christian Moleka.
Bonsoir Guimaté.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Félix Tshisekedi de l'UDPS a annoncé sa décision de retirer sa signature du communiqué consacrant Martin Fayoulou, candidat commun de l'opposition. Dans une interview accordée hier à notre consoeur Top Congo FM, Félix Tshisekedi a dit vouloir se soumettre à l'exigence de sa base. Suivant cet extrait des propos de Félix Tshisekedi qui intervenait ce lundi dans le journal Soir de ces médias.
Il était question à Genève de trouver un accord sur la désignation d'un candidat commun. Ce n'est pas une initiative personnelle, mais c'est une volonté de la base et au-delà même de la base de tous nos compatriotes. Donc j'assume pleinement cette responsabilité. En tant que président de l'UDPS, je n'oublie pas non plus qu'il y a ce devoir de redevabilité. Et justement, c'est à partir de cela que je me suis rendu compte que l'acte que nous avons posé à Genève n'a pas du tout été compris par notre base et au contraire même a été rejeté. Par conséquent, je pense et j'assume ce que je dis, je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève dimanche 11 novembre.
Vital Kamerhe, président de l'UNC, candidat à la présidentielle de décembre, se courbe lui aussi devant la volonté de sa base et retire carrément sa signature de la convention signée dimanche dernier à Genève, convention qui présente Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition. Dans une interview accordée à Radio Capi, le président de l'UNC souligne que son désengagement tient au respect des principes et de la volonté des militants de son parti. Vital Kamerhe explique au téléphone de Billy Ivan Lutumba.
Nous avions signé un accord qui avait été élaboré à Pretoria, qui fixait les critères, les profils pour le choix du candidat commun. Cet accord a été mis de côté au moment du choix du candidat commun pour procéder au vote. C'est une grande première. Le vote n'existe pas dans les négociations. Tout s'est fait par consensus. Toutes les parties doivent se retrouver pour qu'on adopte le point. Mais ici, nous nous réveillons un matin et voilà, on nous impose par certains de nos amis le vote. En tant que démocrate, j'ai accepté, mais je savais où est-ce que ça nous amenait. J'ai dit aux amis, c'est une question de poids politique, une question de rayonnement politique. Comment expliquer que l'IDPS et l'UNC soient les dernières de la classe parmi les sept. Est-ce que ça, c'est compréhensible? Même pour vous, Radio Capi, les gens qui nous suivent en ce moment, ce n'est pas à nous, Félix Tshisekedi, de nous poser des questions, puisque mon ami comme moi-même, nous ne cessions de soulever cette question, que nous sommes là, mais nous voulons être en phase avec la base que nous a mandatée. Et nous craignons qu'avec l'attitude de certains de nos amis, nous soyons en porte-à-faux avec cette base. Mais puisque nous sommes des démocrates, nous avons accepté. Et voilà, il fallait peut-être faire mes saints Thomas pour nos amis, pour qu'eux-mêmes se rendent compte que nous n'avions pas tort d'avoir raison.
Professeur Moïla Tshiembe, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se retirent de l'accord. Professeur Moïla, il y a un brouillon.
Oui.
Ou est-ce que vous me suivez bien? Voilà, je disais, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se retirent de l'accord de Genève sous la pression, disent-ils, de leurs bases respectives. Est-ce que vous comprenez cet acte posé par ces deux leaders de l'opposition?
Oui, il faut dire d'emblée que l'accord de Genève était tellement beau qu'il était difficile de savoir s'il était vrai ou si c'était un rêve. Parce que lorsqu'on regarde la configuration de la compétition électorale qui est devant nous en République démocratique du Congo, tout porte à penser que, à tort ou à raison, les leaders qui voient ou qui se sentent avoir une survie, c'est-à-dire
des professeur, professeur.
Oui.
Professeur Alphonse Maïndo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne à Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani, comment vous, vous analysez ces revirements, n'est-ce pas, de Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi?
Bien, merci beaucoup. Je pense que le prétexte qui a été avancé, c'est un prétexte pour dire, voilà, on ne respecte pas notre engagement parce qu'il y a la base qui nous a demandé de ne pas le faire. Alors là, on peut se demander si ces gens sont véritablement ceux qu'ils prétendent être. Ils disent qu'ils sont des leaders. Or, un leader, c'est pas un suiveur. Un leader, c'est celui qui montre les chemins, c'est celui qui éclaire la masse et qui éclaire aussi sa base. Et donc, il ne peut pas être un suiveur. Soit il est un berger, ou soit il fait partie du troupeau. Or, s'ils suivent le troupeau, donc ils font partie du troupeau. Et donc, on pourrait dire qu'ils ne sont pas véritablement des leaders. Et c'est dommage qu'on puisse avoir ça. Parce que le leader, lui, c'est pas lui qui adhère à la masse. Il fédère la masse. C'est la masse qui adhère à lui pour la cause ou les valeurs ou les idées qu'il porte ou qu'il incarne. Il ne peut pas, si vous voulez, si un leader ne peut pas rallier, ne peut pas rassembler autour de sa cause, il doit alors démissionner. Parce qu'il n'est plus en phase avec les gens, il ne peut plus mobiliser les gens, il doit démissionner. C'est ce qu'avait fait un certain général de Gaulle en France, lorsqu'il s'est retrouvé avec une génération qui n'avait pas connu la guerre et qui l'avait désavoué. Et donc, ils devaient, si vous voulez, démissionner de leur parti.
Oui, professeur.
Comment peuvent-ils prétendre à la magistrature suprême pour un grand pays qui est appelé à un grand destin s'ils ne sont pas capables de respecter leurs engagements? S'ils peuvent céder à n'importe quelle petite pression, voyez-vous, c'est à se demander.
Alors, donc, comment
ils sont capables de faire?
Professeur Maïndo,
oui.
comment vous expliquez, parce que oui. vous dites, vous rappelez qu'un leader, ce n'est pas un suiveur, c'est lui qui montre plutôt la voie. Mais comment vous expliquez que dans le cas d'espèce, c'est plutôt ces leaders-là qui sont orientés par leurs bases respectives?
Alors, malheureusement, ce qui se passe avec ces leaders, c'est que ils nous rappellent simplement ce que nous avons failli oublier, ce que nos politiciens nous ont trop habitués à ce type de revirement, quoi. Et ils sont le produit des systèmes sociaux dans lesquels ils ont évolué, ils ont été moulés. Et vous souvenez que les députés nationaux, les députés provinciaux nous ont habitués à faire des motions. Et après, j'ai retiré les motions sous divers prétextes. Non, je n'avais pas bien lu. Non, je n'avais pas bien compris. En fait, c'est des gens qui roulent pour leur ventre. C'est des politiques alimentaires. C'est des politiciens alimentaires qui n'ont pas de conviction, qui ne se battent pas pour des idées, pour des causes, et qui sont donc dans une logique de positionnement. Alors, pour ce qui concerne ces cas précis, donc on pourrait y trouver une rationalité à ce comportement funeste et qui peut paraître absurde, que vous avez là le fait qu'il y a deux grands candidats de l'opposition qui ont été éliminés, notamment Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Certains se mettent à rêver qu'ils peuvent devenir présidents et donc ils espèrent aussi, avec un certain nombre de sondages qui ont été faits, et que ça pourrait être une chance, leur moment, leur heure à sonner. Ils ont donc l'envie de réussir. Hein. Et pour certains, on pourrait même s'imaginer qu'il y a une espèce de complexe d'Oedipe, hein, puisque le papa n'a pas réussi à devenir président ici. Alors donc, moi, je vais y aller pour montrer que je peux réussir là où l'autre a réussi. Mais malheureusement, ça conduit à ce qui est arrivé à Icar. Hein. C'est conduit à la mort. Ça conduit à la mort. Icar, son papa lui montrait comment il peut faire, il n'a pas voulu l'écouter. Cela conduit à la mort. Il a trop rêvé. Parce qu'il sait qui les attend maintenant. C'est quoi? Le système FCC, hein, le fonds commun pour la corruption, là. Et donc, ce système-là, il est bien rodé, il est en embuscade. Même Dieu le Père lui-même ne gagnerait pas une élection face à ça.
Professeur Maïndo,
il faut se battre pour qu'il y ait des bonnes élections. Avec les conditions actuelles, même si vous faites un candidat unique, même si Dieu lui-même se présentait, il perdrait.
Alors, oui, professeur Maïndo.
C'est ce que, pour moi, ils ont fait simplement un suicide qui est ici anomique, pour reprendre un peu le terme de Duquesne, qui n'obéit à aucune règle. Je ne comprends pas. Pour ce moment-ci, où on a le plus besoin d'eux, vous avez une grande chance de pouvoir fédérer leur force pour se battre, pour avoir de bonnes élections, qui se trompent encore une fois. Et donc, ça nous rappelle, nous, citoyens de ce pays, que nous devons donner un carton rouge à tous ces politiques qui ne prennent pas conscience de la gravité, de la menace qui pèse sur la nation. Il nous faut donc nous réveiller pour donner un carton rouge à tous ces politiques pour mettre en place une transition citoyenne qui permettrait les pendules à l'air pour maintenant créer les conditions d'une élection véritable.
Oui, lorsque vous avez commencé à parler, vous avez évoqué, vous avez parlé des prétextes. Les deux leaders ont évoqué la pression de la base pour justifier, n'est-ce pas, leurs actes. Est-ce que la pression de la base serait-elle la raison valable? Ou c'est juste un simple prétexte? Est-ce que la raison valable ne serait pas ailleurs? Parce qu'en fait, là, on a affaire à des groupes. L'un plutôt a son sein, en plus des candidats qui sont en lice, des personnalités écartées par la Cour constitutionnelle, et tous posent des conditions, n'est-ce pas, pour participer aux élections. Et l'autre groupe est composé des candidats qui ne posent plus de conditions pour aller aux élections.
Oui, en fait, c'est pour ça que je parlais des prétextes. Et à mon avis, même cette prétendue mobilisation de la base, opposition de la base, c'est plus un montage. Voyez-vous, c'est les mêmes prétendus leaders qui ont probablement, en tout cas, mobilisé les gens pour dire, voilà, faites une action, comme ça, moi, j'aurai des prétextes pour me retirer de cet accord. Voyez-vous, parce qu'ils n'osaient pas d'eux-mêmes prendre l'initiative de le faire, alors ils mobilisent. On connaît comment fonctionnent nos politiques, hein. Ils font ça régulièrement. Et donc eux-mêmes, ils payent des gens à gauche, à droite pour faire une action. Après, ils disent non, c'est le peuple. Souvenez-vous que même des grands dictateurs, ils ont fait signer des mémos, des pétitions à soi-disant le peuple leur demande de rester encore en place et tout ça. Le dernier exemple que nous avons ici, c'est la pétition de centaines, disons des milliers de gens au Rwanda pour demander au bien-aimé Guy d'éclairer président rwandais pour qu'il demeure en place, il change la constitution, tout ça. On sait comment ça se passe. Et donc, il faut pas qu'on nous leurre en disant, voilà, il y a une mobilisation de la base et tout ça. Et les leaders, justement, c'est lui qui doit modeler la base. C'est lui qui doit modeler la base, qui doit pouvoir présenter des idées, des valeurs, des convictions pour fédérer les gens autour de ça, pour rallier les gens. S'il n'y arrive pas, c'est qu'il n'est pas un leader, et donc il doit être dans la troupe ou dans les troupeaux avec d'autres vaches, il ne peut pas être le berger. Et donc il doit se retirer. Il ne peut pas prétendre à la magistrature suprême d'un pays comme le Congo.
Merci, professeur.
C'est dommage.
Merci, nous allons vous redonner la parole. Professeur Moïla Tchiembe, vous êtes de nouveau là?
Oui, je suis là.
Voilà, vous étiez en train de répondre, de tenter d'expliquer, n'est-ce pas, l'acte posé par ces deux leaders de l'opposition.
Oui, je disais que l'accord de Genève était tellement beau qu'on se demandait si c'était un accord signé entre les opposants et les leaders congolais. Dois-je rappeler que depuis les années 60, l'opposition congolaise n'a jamais donné preuve de quelque chose qui s'appelle l'intelligence, c'est-à-dire la stratégie. Pour la première fois, les leaders réunis ont essayé autant que faire se peut de dépasser leur moi individuel pour voir ce qu'on peut considérer comme l'intérêt général, de se surpasser et de choisir l'union. Dieu sait que l'union fait la force. Face à la machine, le rouleau compresseur de la majorité présidentielle et qui est déjà en place, c'était, à mon avis, le comportement, la stratégie la mieux indiquée, quel que soit par ailleurs ce qu'on pouvait penser dans les états-majors, etc. Mais hélas, c'était trop beau pour durer longtemps, pour plusieurs raisons. Si vous connaissez un peu de sociologie politique de l'UDPS, l'UDPS c'est un parti de masse. Depuis sa création, c'est toujours les missionnaires politiques, les combattants qui ont toujours décidé. Étienne Tshisekedi est resté président jusqu'à la fin de sa vie en écoutant plus la base. Le sommet de l'UDPS n'a jamais rien imposé à la base. On peut le regretter, mais c'est ça la réalité. Alors, pourquoi alors cet engagement que la base ne connaissait pas n'est-il pas été utile au préalable par les faiseurs de roi, en l'occurrence le président Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, les parrains de cet accord? Pourquoi n'ont-ils pas tenu compte de ce préalable? Quand on connaît la scène politique congolaise, rien ne peut être imposé à la base de l'UDPS. Tout le monde le sait. L'ignorer, c'est considérer que on peut faire feu avec de l'eau. On le regrette, mais c'est arrivé. Alors, ce qui reste maintenant devant nous, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ce qui était pensé raisonnablement vient de foirer. Est-ce que ce surgissement du peuple de base de ces partis, les militants, qui n'avaient pas été consultés, qui n'avaient pas été entendus, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, j'avoue que pour l'instant, on n'a pas de visibilité pour fixer l'avenir. Le moins que l'on puisse dire est qu'il y a un désarroi général. Est-ce que les leaders revenus à la base vont-ils bien sûr l'entendre? Mais qu'est-ce qu'il y a comme proposition? Naturellement, il reste l'idée que chaque leader, M. Kamere et M. Tshisekedi Fils, sont candidats, parce qu'ils ne se sont pas retirés sur les listes électorales de la CENI. En conséquence de quoi, même s'ils avaient appelé dans l'accord à voter M. Fayulu, il n'en demeure pas moins vrai que jusqu'à la date des élections, M. Tshisekedi et M. Kamere, en droit, étaient candidats aux élections présidentielles. Et il était même à douter que, sans avoir dénoncé l'accord, les militants auraient dans les urnes confirmé ou infirmé leur vision et leur adhésion à leur leader Kamere d'un côté, indépendamment de l'accord qui a été forgé à Genève. On le regrette, mais il reste à souhaiter que la casse soit réparée. Je ne sais pas vous dire à l'heure qu'il est comment on peut.
Oui, professeur Moïla Tshiebe, ces sept leaders qui se sont retrouvés à Genève la semaine dernière ont signé un accord dans lequel il est formellement mentionné notamment la nécessité d'éliminer les votes électroniques, de corriger les fichiers électoraux afin d'y élaguer les 10 millions d'effectifs, mais aussi d'écarter l'éventualité d'un boycott. Et cet accord a été signé par tous les sept leaders. Or, on se rappelle que qu'à l'UDPS, l'option était de participer, n'est-ce pas, aux élections sans condition. Et dès lors que le président de l'UDPS a posé, n'est-ce pas, sa signature sur un tel texte, n'est-ce pas qu'il se mettait à dos ses partisans? Vous avez ici souligné les rôles importants que la base joue au sein de l'UDPS.
Mais évidemment, parce que vous avez déjà constaté comment Tshisekedi Fils avait joué. Lorsqu'il a dit que on ira aux élections, qu'il y ait machine ou non, nous allons aux élections. Pour les partisans de l'UDPS, le fond de l'affaire, c'est que pour eux, qu'on l'accepte ou qu'on le déplore, ils pensent que l'histoire, leur revenu pour l'UDPS de se mesurer, de prendre le pouvoir, parce que les circonstances font le larron. Les grands leaders, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, ne sont plus dans la compétition, et en conséquence de quoi, seul le peuple peut dire si l'UDPS prendra le pouvoir ou non. Donc pour les militants, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Il faut aller affronter le suffrage universel, qu'il y ait machine ou pas. Or, ce mot d'ordre, lorsque ça fait des ordres.
Professeur Moïla Tshiebe, est-ce que vous êtes toujours là? Allô, professeur? Apparemment, on l'a perdu une fois de plus. On va tenter de les rappeler. Christian Moleka, vous êtes analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Avez-vous été surpris par cette votre face au sein de l'opposition?
Non, je n'étais pas surpris. J'ai rejoint d'ailleurs l'analyse du professeur Mwalila parce que je voulais, pour le TIE, ajouter un fait historique que peut-être les Congolais ont oublié. Nous sommes au début des années 90, le maréchal Mobutu consulte notamment Étienne Tshisekedi en l'y envoyant Mokonda, puis le nom Premier ministre. Les militants de l'UDPS à l'époque sortent pour contester la nomination et Étienne Tshisekedi fait volte-face. Il nie cette nomination, il le conteste et Mobutu nomme quelqu'un d'autre. C'est pas un fait nouveau, comme le dit professeur Mwalila, c'est l'ADN de l'UDPS qui fait que la longévité de Étienne Tshisekedi, en tout cas l'une des raisons de la longévité, c'est qu'il a tout le temps surfé sur le point de vue de la base et il est resté tellement populaire sur ce jeu-là, qui s'est éloigné de la discussion des coalitions qui nécessitent un peu de compromis pour ne pas décevoir à la base. Et c'est inscrit comme ça dans l'UDPS.
Et donc, à l'UDPS, le leader n'oriente pas, mais il est plutôt orienté par la base.
À l'UDPS, les leaders ont la culture de suivre la masse et rarement d'aller à contre-courant. C'est une culture qui a commencé depuis Étienne Tshisekedi. Je rappelais les événements de 90. Je peux même rappeler les événements de 2015. Lorsque, au Sénat, on votait la loi et que la population est sortie pour dire nous voulons plus de la loi, Étienne Tshisekedi a fait une première déclaration puis a reculé lorsqu'il a senti que la base ne voulait pas de la loi. La fameuse loi avec le ministre Lumanu, si vous en rappelez, en 2015. Et donc, c'est inscrit dans la manière de fonctionner de l'UDPS. Et c'est qui ont conçu ce stratagème à Genève? Comme le dit le professeur Mwalila, n'ont pas compris la sociologie politique particulière de notre pays. Et c'est une grosse erreur de stratégie que de monter un stratagème comme ça sans prévoir de porte d'ouverture. Ils auraient pu prévoir la possibilité...
Pourquoi vous appelez ça stratagème?
Mais parce que lorsqu'on prend l'option de prendre les leaders, de les amener dans un lieu, de fermer le téléphone et de prendre une décision qu'ils vont imposer auprès de leur base, ça peut bien se passer dans la compréhension occidentale des partis politiques. Mais la compréhension locale et contingente congolaise, ça marche pas comme ça.
Alors, donc, ils affirment, les deux qui se sont retirés, n'est-ce pas, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, affirment avoir signé en âme et conscience, mais sous la pression, n'est-ce pas, de leur base, ils se sont désengagés de cet accord. Et politiquement, une telle attitude peut avoir quelles conséquences?
Mais si vous suivez Vital Kamerhe, qu'est-ce qu'il dit dans son interview? Il dit, nous avions dit aux autres que la base n'écouterait pas. Ils nous ont pas cru, et pour ne pas faire le Saint Thomas, nous avons signé, nous avons tort d'avoir eu raison. C'est-à-dire qu'ils étaient conscients, signant que ça passerait pas. Donc nous sommes en train d'assister à un
jeu. Mais est-ce qu'ils étaient obligés de signer?
Ça, je ne sais pas dire, parce que je n'étais pas à Genève, mais lorsqu'ils vous disent qu'ils étaient conscients que ça marcherait pas, mais qu'on les a pas écoutés, et qu'ils ont signé parce qu'on les a pas écoutés, sachant que ça marcherait pas, ça veut dire que nous sommes en face d'un jeu de poker menteur. Donc entre eux, il n'y a pas véritablement de réelle harmonie comme on nous laisse penser. Et donc,
Personne ne joue franc jeu.
Personne ne joue franc jeu, d'autant plus que les agendas ne sont pas le même. Ceux qui sont sortis du processus ont un autre agenda. Et d'ailleurs, la rationalité de la candidature de Monsieur Fayulu, c'est parce qu'il répond correctement au cahier de charges qui a été présenté, celle du rejet de la machine à voter, celle du refus de participer avec ce fichier électoral, alors que l'UDPS a déjà donné un quitus à moitié en acceptant de participer avec la machine ou non. Et donc, si on prend la rationalité de la feuille de route proposée, la rationalité de la candidature de Fayulu s'explique. Mais ça ne correspond pas à l'agenda d'autres leaders qui sont dans la course, qui se considèrent comme capables, entre guillemets, d'aller remporter la victoire. Et donc, ce jeu de poker menteur entre des agendas différents a fait que l'accord ne pouvait que capoter.
Et donc, il était irrationnel que des gens qui n'avaient pas les mêmes objectifs et qui n'avaient pas les mêmes intérêts puissent être liés par un accord.
C'était difficile, en tout cas difficile, parce que ce n'est pas la première fois. Vous rappellerez, lors de la dernière activité sur renseignement, le discours n'était pas le même. Quand certains appelaient aux élections et au rassemblement, d'autres vont parler de l'article 64. Donc c'est ces deux courants-là qui peuvent justifier cet échec-là de l'accord à côté de la préparation qui n'a pas été assez parfaite.
Tous évoquent les concepts de base et rarement ils parlent du concept de peuple. Pourquoi, à votre avis?
Oh ben parce que lorsqu'on parle de base, on fait allusion aux militants qui s'identifient au parti. Et donc nous sommes dans la fraction du peuple qui s'identifie au discours de Étienne Tshisekedi. On parlait du peuple, ce serait très globalisant. Le peuple en tant que corps social dans sa globalité ne peut pas exprimer une opinion particulière.
Voilà. Mais il arrive aussi des moments où vous avez évoqué les cas particuliers, n'est-ce pas, des leaders de peuple, où c'est les leaders qui suivent, n'est-ce pas, la masse, mais ils doivent arriver, n'est-ce pas, à un moment donné de l'histoire de l'homme politique, et des moments où cet homme politique, ce leader politique est obligé, prendre des initiatives, des décisions sans pour autant se référer à la base.
Exactement, c'est-à-dire que là, nous sommes en train de parler d'hommes d'État. Nous avons des politiciens, des hommes politiques, nous n'avons pas des hommes d'État. Les hommes d'État, ce sont des hommes qui peuvent accepter de naviguer à contre-courant, d'être incompris aujourd'hui, d'être même hué, pour que 50 ans après, le peuple comprenne qu'il avait raison. Ces gens d'hommes au Congo, nous ne l'avons pas. Nous devrions avoir des leaders qui soient à même de porter des idées non acceptées, contraires même à l'opinion générale, à être impopulaires pendant un temps, et puis voir dans 10 ans, 20 ans, l'histoire leur accorder raison. Nous avons encore des gens qui réfléchissent en termes d'électorat. Nous sommes à quelques mois des élections. Ils veulent avoir la popularité, donc ils ne pensent pas à un homme d'État.
Et par rapport aux forces en présence, s'il faut prendre en compte, n'est-ce pas, la configuration actuelle, vous avez Fayoulou qui reste avec les quatre personnalités qui les soutiennent. On a les professeurs Matungulu, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Adolphe Muzito. Et vous avez Vital Kamerhe qui évolue seul, et Félix Tshisekedi qui évolue également seul. Vous avez Shadary qui va aussi seul. Et le reste des candidats à la présidentielle, ils vont de manière dispersée. Comment vous entrevoyez l'issue d'une telle situation? Quelles pourraient être, n'est-ce pas, les chances des uns et des autres?
L'opposition vient d'amincir ses propres chances, parce que si on parle du fait que dans notre corps électoral, la majeure partie de l'électorat est à l'Est, comme on a toujours l'habitude de nous dire, que le plus grand nombre d'enrôlés sont à l'Est, et que l'opposition, à travers Fayoulou, présente un candidat de l'Ouest. Comment un candidat de l'Ouest, bon, même s'il est porté par quelques leaders de l'Est, peut rafler les maximums de voix à l'Est? C'est très compliqué. En même temps, quand on connaît l'envergure d'un Fayoulou qui était candidat député national à Lukunga en 2011 et qui n'était pas le mieux élu, parce que le mieux élu à Lukunga, c'était Franck Diongo. Faut pas oublier cela. Quand vous prenez l'envergure de son parti politique, sa capacité à couvrir la territorialité nationale, vous verrez que ce n'est pas un leader qui, à lui seul, peut fédérer autant que possible des gens. Et donc, en allant, par contre, en allant les disperser, on donne plus de chances à la majorité qui s'est consolidée autour de son dauphin et qui a l'avantage de disposer encore de l'évêque de l'État. On parle de gouverneur, on parle de territorial, on parle des chefs
coutumiers. Pour contourner cette difficulté, il y a le sénateur Jean-Pierre Bemba qui a demandé à tous les leaders, n'est-ce pas, de pouvoir convaincre leur base de pouvoir soutenir la candidature des Fayoulou. Vous avez Matungulu qui est à l'Ouest, et Jean-Pierre Bemba qui est au Nord, n'est-ce pas, et Moïse Katumbi qui est à l'Est, et Adolphe Muzito aussi à l'Ouest. Est-ce que cela ne suffit pas pour que Fayoulou puisse avoir des voix à travers tout le pays?
Bon, personnellement, déjà, je pense que la candidature de Fayoulou n'était pas une candidature pour les élections. Je pense qu'il était une candidature d'étape pour mettre en place cette feuille de route-là. Et après, seulement, il y aurait eu réellement cette candidature qui aurait rassemblé l'opposition. Ça, c'est mon point de vue. Et deuxièmement, je pense que l'opposition aurait davantage gagné en rassemblant tous les leaders, notamment Félix et Kamerhe, qui ont des ancrages sociologiques bien définis, bien connus. Et ça aurait maximisé les chances. Donc, en les perdant, comme cela, on réduit les chances, même si on ne peut pas à ce stade dire que les reports seront automatiques, mais on réduit les chances de l'opposition de gagner.
Voilà. Est-ce qu'on s'est trompé si on considère que la situation qui prévaut actuellement à l'opposition profite au FCC?
On se tromperait pas. Il y a qu'à suivre comment le FCC a réagi depuis le matin dans tous les médias, que ce soit par son directeur de cabinet. Ils sont en train de fêter parce que l'opposition, en faisant des tirs fratricides, a ouvert ses propres rangs et est en train de démobiliser une population qui longtemps a cru en ce rêve-là. Il faut suivre les réseaux sociaux pour voir comment réagit l'opinion. On a un sentiment d'abandon et même de désolation. On a le sentiment que les leaders ont trahi une partie de l'opinion qui croyait en eux. Et donc, il y a ce relâchement-là, psychologique, qui ne va pas favoriser le combat de l'opposition.
Et professeur Maïda Chimbe, vous êtes là?
Oui, je suis là, un peu avec des difficultés, oui.
Oui, il a été dit ici que ces leaders n'ont pas les mêmes objectifs, n'ont pas les mêmes intérêts. Est-ce qu'il était rationnel plutôt que des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui n'ont pas les mêmes intérêts, puissent se retrouver autour d'une table et puissent signer un accord?
Donc, les leaders n'ont pas les mêmes intérêts, c'est une évidence. Mais à mon avis, ce qui est à la base de l'échec, c'est le fait qu'on n'a pas tenu compte du principe de réalité. Entre l'idéal d'avoir un seul leader et les réalités des forces en présence, il fallait tenir compte des forces en présence. Or, apparemment, le président Jean-Pierre Bemba et Monsieur Moïse Katumbi, hein, les faiseurs de roi de Genève, n'ont pas tenu compte des principes de réalité. Parce que même si toutes choses étant égales par ailleurs, vous avez suivi le sondage qui a été présenté il n'y a pas si longtemps, qui a fait trembler les Tshisekedi fils gagnant ou loin devant M. Kamere et loin devant le candidat de la majorité présidentielle. Certes, un sondage, l'hirondelle ne fait pas le printemps. C'est une photocopie instantanée qui peut être tout simplement une fiction. Mais il n'en demeure pas moins que lorsqu'on s'est réunis en tenant compte de cette réalité, ne fût-ce que de ce sondage, il fallait que M. Moïse Katumbi et M. le président Jean-Pierre Bemba considèrent au moins M. Tshisekedi et M. Kamere pouvoir trouver un compromis entre les deux. Alors le fait de vouloir l'idéal de M. Fayulu, qui est un candidat tout à fait respectable, mais qui dans la théorie des réalités du pouvoir et des forces en présence ne peut pas se mesurer ni à l'UDPS ni au parti de M. Kamere, bah évidemment, le bébé qui est né était handicapé avant même de sortir du ventre de sa mère.
Professeur Maïla,
c'est la réalité.
Professeur Maïla, nous allons suivre avec vous cette réflexion des Zachary. Comme ça, vous allez réagir à cette réflexion.
Zachary Kingombe depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Le vote de ces deux leaders de l'opposition par rapport à leur engagement de Genève provoque une immense déception du peuple congolais qui n'est juré par la candidature unique de l'opposition et les similités vagues de la victoire. Malheureusement, pour les intermédiaires, la suétude démesurée et le manque de confiance, cette unité vient de féminiser tout au moment le plus crucial du processus électoral. Par ailleurs, la signature de cet accord, aussi les répétitions qui s'en sont suivis, permet non seulement au peuple congolais, mais aussi à la communauté internationale de connaître qui est dans cette opposition, qui est du côté du peuple et qui est du côté de son propre parti politique. Pour finir, je demande aux cadres, les militants des partis de l'Église et l'opposition, d'avoir le courage et l'honnêteté d'accepter aux résultats de ces élections, car sans l'unité, l'opposition ne peut les gagner.
Professeur Moïla Chiembe.
Oui, je vous écoute.
Oui, votre réaction par rapport à cette réflexion.
Le raisonnement de notre ami de tout à l'heure, de Kisangani, est pertinent. Mais seulement, lorsqu'on regarde la situation politique de la République démocratique du Congo, voici de nombreuses années, et de ses partis politiques, un accord qui s'est fait à Genève, loin des tohu-bohu de l'engagement des militants et des réalités, et à supposer même que l'accord ait été respecté, quelle garantie aurions-nous eu que les militants de l'opposition voteraient comme un seul homme en faveur de M. Fayulu? On n'en a pas la preuve. Il est possible que les militants auraient probablement voté pour lui. Mais il est aussi possible que dans le secret de l'urne, les militants se seraient comportés autrement. Donc, par conséquent, quand on regarde comment l'accord a été instrumentalisé par ceux qui étaient à Genève, on voit que il y avait un fruit. Pourquoi? Mais parce que les partisans de Genève, M. Fayulu y compris, ne voulaient pas aller aux élections sans qu'on ait réglé préalablement la question des machines à voter. Et qu'est-ce qui se serait passé si, à la veille des élections, le groupe de M. Fayulu refuserait d'aller aux élections? Personne n'examine cette alternative. Je pense que M. Kamere et M. Tshisekedi, leurs militants ont plus peur de cette alternative. Parce que du moment où on conditionne qu'il faut qu'on abandonne la machine, il faut que les 10 millions, 8 millions d'effectifs soit élagué, alors que jusqu'à présent, la CENI n'a pas donné la garantie de céder ni sur l'un ou l'autre des deux points. Qu'est-ce qui se passerait?
Est-ce qu'on boycotterait les élections? Est-ce qu'on laisserait passer le candidat de la majorité haut la main comme candidat unique? Ben voilà cette alternative qui est tout à fait étonnante.
Merci.
Alors probablement que à quelque chose de malheur est bon, il faut échafauder d'autres scénarios.
Merci, professeur Alphonse Maindo. Vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Kikwit.
Gabi Aguifan, depuis Kikwit dans la province du Kwilu. À mon avis, il y a là la carence d'hommes d'État au sein de la classe politique congolaise. Cet acte posé par ces deux leaders, dont Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, acquise les capacités de gérer la République, car s'ils sont incapables de maîtriser les 6% de la population de leur base, respectifs de leur parti politique, par quelle magie pourront-ils maîtriser les 80 millions d'habitants? Ils ont démontré à la face du monde qu'ils sont simplement et doucement égoïstes, et s'ils ont le pouvoir, un jour, ils vont travailler non pour le compte de la population congolaise, mais plutôt pour le compte de leur parti politique.
Professeur Alphonse Maindo.
Oui, je pense que la réflexion de notre compatriote est tout à fait raisonnable, est tout à fait pertinente, puisque là, on voit bien qu'il y a la crédibilité de candidats qui se posent en termes de présidentialité. Est-ce qu'ils sont vraiment présidentiables? Parce qu'un président doit faire face à beaucoup de défis et il doit faire face à beaucoup de résistances. Donc s'ils n'ont pas la capacité de gérer de stress, de gérer des pressions en tant que candidat pour une poignée de militants de leur parti, comment serait-il s'il y aurait, si vous voulez, une plus importante mobilisation des gens? Alors ceci dit, moi je voudrais revenir un peu sur le débat tout à l'heure. On ne va pas aux élections pour plaisir d'aller aux élections. Les élections sont conçues pour ramener la paix, pour ramener la bonne gestion, etc. Donc si on sait très bien que les élections dans lesquelles on voudrait participer vont conduire à des situations difficiles, on va les contester, etc. Pourquoi y aller? Il faut donc exiger de bonnes conditions. Et je pense que là, il y a un vrai problème au niveau de la compréhension, de l'analyse des problèmes. Il manque de réalisme par rapport à ça. Alors, l'autre point sur lequel je voudrais revenir ici, c'est quand j'entends ici, par rapport à la sociologie de l'élu de paix. Mais on oublie simplement de souligner un fait. Lorsqu'on dit que l'élu de paix s'est toujours appuyé sur sa base, mais on oublie que cette stratégie de s'appuyer sur la base, c'est une stratégie de fuite en avant pour éviter de prendre des engagements. Voyez-vous, parce que lorsque la direction de l'élu de paix a trouvé son compte dans tel ou tel engagement, elle a toujours ignoré la base. Prenez le cas de l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue, l'AFD, que l'UDPS, la direction de l'UDPS avait signé avec le RCD, dont on connaît la popularité auprès de l'opinion publique congolaise, en particulier de la base de l'UDPS. Donc on ne peut pas dire que les présidents de l'UDPS de l'époque n'aient jamais revenu sur cette décision, cette alliance qui avait été signée avec le Rassemblement congolais pour la démocratie. Mais aussi, il y a eu plusieurs fois la base qui a exigé le congrès du parti, tout ça. Et est-ce qu'on a organisé ces congrès-là? On ne les a pas organisés. Et donc, il s'agit plutôt des stratégies de la direction de ce parti. À chaque fois qu'elle était en difficulté dans une question, alors elle s'est dédouanée en se mettant derrière la base. Mais quand la base rencontrait ses propres intérêts, alors elle s'est cachée derrière cette base.
Donc, merci.
Mais pour revenir aussi à un autre aspect, c'est que c'est vrai que l'opposition s'y est pris un peu en retard. Elle aurait dû faire cette démarche en amont, avant que les gens déposent leur candidature.
Merci.
Si cette démarche avait été faite avant, on pourrait avoir des résultats.
Merci, professeur. On va vous redonner la parole.
Si l'UDPS et l'UNC voulaient prendre des vraies mesures et pour consulter leur base ou quoi, ce qu'elles auraient pu faire, c'est fait comme la majorité présidentielle avait fait en décembre 2016, signé sous réserve.
Merci.
Elle aurait signé sous réserve, on comprendrait.
Merci, on a compris, professeur.
On a compris.
On a compris. Christian Moleka, vous allez réagir aussi à cette réflexion qui vient de l'Issala.
Eric Bachelet Liélé à l'Issala de la Mongala. À mon humble avis, la dernière prise de position par Félix et Vital n'est pas extraordinaire. D'autant plus que les deux se sont lâchés à la course pour l'intérêt de leurs partis politiques respectifs et non pour le changement de la nation tout entière. C'est ainsi qu'ils se servent des mots bases comme prétexte pour dissuader l'opinion nationale alors que la population congolaise ne reste pas dite. C'est inadmissible, en fait, de constater, après avoir signé en âme et conscience un série engagement, de se retirer aussitôt. Nous pensons que le retrait des deux sites ne pourra en aucun cas fragiliser l'opposition.
Christian Moleka.
Merci Eric Basselé. Je pense qu'il y a, du vrai dans ce qu'il dit. On a un problème de culture politique. C'est pas la première fois qu'on l'évoque, que ce soit depuis Moustapha Niassé, tout le monde le sait, Abdoulaye Wade, sur la culture politique de notre pays, la culture politique de nos dirigeants. On a un déficit énorme de culture politique. Mais il en va de même que l'on fait de la politique pour faire gagner son parti politique. Et on réalise son projet de développement via son parti politique. Donc c'est des bonnes guerres. En même temps, je suis d'accord avec vous, nous avons, je l'ai déjà dit avant vous, un sérieux problème d'hommes d'État. Nous manquons d'hommes d'État, d'hommes de parole, d'hommes qui tiennent à leurs engagements, d'hommes qui peuvent même accepter de naviguer à contre-courant quand l'histoire l'exige, quitte à être compris après. Donc si on veut resurfer sur la popularité, on veut rester populaire, eh bien on ne fera pas de grandes réformes parce que diriger exige de grandes réformes et les grandes réformes sont douloureuses. Voilà, donc il faudra apprendre à être plus résilient, à résister aux pressions, sinon on ne mettra pas en place les grandes réformes.
Parce qu'ils ont posé les mêmes actes, est-ce qu'on peut envisager un ticket caméré, tu sais qu'est dit, l'un se désiste en faveur de l'autre?
Déjà, il faut dire que lorsqu'on prend en compte les votes qui ont été faits, personne n'a voté pour l'autre. Donc déjà, à Genève, personne n'a voté pour l'autre. Ils ont tous une voix parce que personne n'a voté pour l'autre. Donc personnellement, je ne vois pas ce ticket-là. On connaît l'animosité qui existe entre Kamer et UDPS avec cette histoire de Caméléon. Donc la politique est dynamique, mais je ne vois pas cette
Et la conclusion?
La conclusion, c'est que le peuple congolais ne peut que regretter d'avoir des élites qui déçoivent. À chaque grand rendez-vous historique, lorsque le peuple espère trouver des hommes qui répondent, les hommes politiques ne sont pas là. Nous avons un problème des ressources humaines, nous avons un problème d'hommes, des qualités d'hommes qui doivent gérer cette nation.
Pour ce Moïla Tchiembe, cette situation qui prévoit à l'opposition pourrait impacter le processus électoral, ça sera sous votre conclusion?
Ben pour l'instant, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Les militants ont repris la main. Espérons qu'une lumière quelconque pourrait surgir de l'engagement des militants, parce qu'en réalité, ce sont les militants qui ont repris.
Oui, professeur Alphonse Maïndo, votre conclusion?
Ma conclusion, ce serait en quelques mots, en disant simplement que on ne peut pas reprocher à certains de on ne peut pas dénoncer la violation des accords, notamment l'accord du 31 décembre, tout ça. En même temps, soi-même, un accord qu'on a librement signé, on les viole le lendemain, quoi. Donc, il y a un problème de cohérence dans les chefs de ceux qui prétendent à la magistrature soudaine dans ce pays. Et donc, il faut que le peuple puisse prendre ses responsabilités.
Merci.
Et les mettre hors d'état de nuire parce qu'il le faut.
Merci à Willem Lungamba qui était à la technique, à Alain Irung et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Pelé Kipelamondo, à la présentation Guy Maté. Merci et à ce mercredi pour un autre débat. Bonne suite de programme sur Radio Okapi.